Si vous n'aimez pas l'histoire, on tâchera de vous la faire aimer. Si vous l'aimez, on tâchera de ne pas vous dérouter. Les Chemins du Passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Lay, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante, même si la manière de les présenter parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques. Micro-histoire sur RVR présentée aujourd'hui par Claude Janin et Noël Goutenoir.
Bonjour monsieur le climatologue, pouvez-vous nous dire exactement ce qu'est le PAG s'il vous plaît ?
Alors le PAG, c'est ce qui succède à l'OCM.
Bon, alors écoutez, si c'est pour avoir des réponses de ce type, je préfère vous laisser, je ne sers à rien, et je préfère vous laisser continuer tout seul votre récit.
Non, mais vous ne mettez pas en colère, c'est une vérité, enfin une vérité, c'est ce que disent les climatologues. L'OCM, c'est un optimum climatique médiéval, alors que le PAG, c'est le petit âge glaciaire. Voilà, pour préciser, c'est une période de refroidissement climatique qui touche l'Europe et l'Amérique du Nord du milieu du XIVe siècle au milieu du XIXe siècle. Période qui a été étudiée, analysée par les historiens et les géographes et qui a été reprise par l'abbé Jean Canard, qui avait un nom vraiment prédestiné, historien local qui a parcouru les registres paroissiaux du Beaujolais et du Forêt et qui l'a consigné dans un ouvrage qui s'appelle « Le temps qu'il faisait », chronique du temps passé et notes de météorologie, paru en 1991. Alors, sur les 140 années étudiées par l'abbé, on en dénombre 70 qui mentionnent des hivers très rigoureux, voire catastrophiques. Par exemple, 1649, 93, 1709, 1740, 1756, 65, 67, 68, 70, 76, 85 et 88. Alors, voici quelques exemples tirés des fameux registres paroissiaux. 1er août 1618, il neige sur les montagnes du Forêt. En 1649, la Saône a gelé trois fois. En 1660, à Villemontais, Jean Fontanelle a été enterré le 21 décembre. Il était mort dans les grandes vignes, 12 jours auparavant qu'on ait trouvé son corps. Le 20 janvier 1694, à Saint-Victor-sur-Rhin, on y a enterré un paroissien d'Amplepuis à cause de la difficulté qu'on avait de le transporter en raison de la neige. En 1699, à L'Arbrel, il a neigé l'avant-veille de la Pentecôte. En 1709, l'année du grand hiver, dit-on, où le vin a gelé jusque dans le verre du roi, à Montagny, par exemple, les arbres fendaient en faisant un bruit semblable à des coups de pistolet. À Saint-Clément-sous-Valsonne, de la même année, ceux qui avaient des fruits, du blé, des légumes, étaient obligés de veiller la nuit pour se garantir des voleurs affamés. À Tizy, j'en ai enterré 150, dont certains avaient mangé chiens et chats. À Saint-Symphorien-de-Lay, les gens entendaient la messe de leur maison en raison des voleurs. À Saint-Étienne, le roi fit venir du blé de Turquie en échange d'armes confectionnées dans cette ville. À Marseille, c'est un peu plus loin, les bords de la mer glacèrent à plus de 40 pas du rivage. Et à Lyon, la Saône et le Rhône furent gelés d'une épaisseur de 26 pouces. 1740, Tizy, l'hiver dura 7 mois jusqu'au 22 mai. À Renaison, le peu de vin que l'on a fait est sans valeur d'une façon que les Parisiens n'en ont point voulu par crainte qu'il négrisse. Et les Parisiens sont allés acquérir leur vin dans le Mâconnais. 1758, à Sainte-Colombe-sur-Gand, le 18 avril, la gelée fut si forte que tous les fruits à noyaux furent perdus. 1765, à Roanne, Feurs, Cusieux, en janvier-février, on put traverser la Loire sur la glace et les moulins arrêtèrent de fonctionner. En 1767, à Saint-Ans-le-Vieux, le 19 avril, les crêtes des poules et coques ont gelé. En 1770, à Sainte-Colombe-sur-Gand, de nouveau, 15 pieds de hauteur de neige pendant 3 mois. En janvier 77, à Changy, le froid fut si brutal que les loups sortirent des bois et vinrent rôder jusque sur la place publique. En 1788, à Saint-Sorlin, les burettes de l'église gelèrent. En 1790, suite au brutal réchauffement, la Loire a passé au-dessus de la digue de Pinay, détruisant plus de 100 maisons en Roanne, entraînant un nombre de morts inexprimable. 1801, Saint-Juan-Chevalet, le 18 juin, les pommes de terre et les haricots ont gelé dans les jardins. En 1815, à Saint-Jules-la-Pendue, il fit froid du 11 novembre au 15 avril. Bon, etc., etc., on pourrait continuer la liste. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas la gravité des phénomènes climatiques, c'est surtout leur répétition des phénomènes de froid. On en a eu beaucoup depuis, notamment en 1956. Alors, pour conclure, quelles conséquences ça a ? Ben, ces aléas climatiques auxquels on peut rajouter les inondations, les orages, les ravages de la grêle, les intenses sécheresses, les épidémies liées à la décomposition des cadavres animaux, entraînent des conditions de vie absolument dramatiques pour une population essentiellement rurale et démunie. Alors, ça va se traduire par une très forte mortalité. Entre 1693 et 1694, on considère que près de 1,7 million de Français meurent de faim ou d'épidémie, sans parler des guerres. Et surtout, un immense sentiment d'injustice. En 1789, à Charentais, dans le Rhône, la farine devint si rare que le 4 janvier, le procureur du roi fit réquisitionner dans les maisons 14 sacs de farine pour alimenter Villefranche. En 1789, encore à Mars, plusieurs châteaux ont été incendiés par des gens de campagne attroupés à qui on avait demandé le quart des revenus de tous les biens d'une année pour payer les dettes de l'État. On connaît la suite.
Microhistoire sur RVR, présenté aujourd'hui par Claude Janin et Noël Goutenoir.